VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 20 décembre 2023. Il est 7h en temps universel. Voici le sommaire. En RDC, les Congolais votent ce mercredi pour des élections générales à haut risque auxquelles le président sortant, Félix Tshisekedi, se représente face à une opposition morcelée dans un climat politique et sécuritaire très tendu. Nous consacrons une partie de ce journal à cette journée de vote avec nos envoyés spéciaux et correspondants sur place. En République démocratique du Congo, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur un total d'environ 100 millions d'habitants sont appelés ce mercredi à élire leur président, mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux et pour la première fois, leurs conseillers communaux. À Kinshasa, les bureaux de vote sont déjà ouverts. Retrouvons dans la capitale congolaise Eddy Issango, envoyé spécial de VOA Afrique. Bonjour Eddy. Bonjour Eddy Issango.
Bonjour, Moussa.
Bonjour, alors vous êtes à Kinshasa, vous couvrez l'élection pour VOA Afrique. Quelle est la situation sur place où vous vous trouvez?
Là, je suis présentement au collège Saint-Joseph-Elitia, ville juste derrière la centrale électorale. Les bureaux étaient censés ouvrir à 6h juste, mais il est quasiment 8h, 7h. Bon, les bureaux viennent juste d'ouvrir maintenant et les gens ont patienté longtemps en file. Il y a de la tension ici. Bon, c'était juste pour permettre à ce que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, puisse installer tous les kits possibles. Mais comme vous l'entendez, les gens sont un peu montés derrière moi parce qu'ils ont attendu longtemps. Ils poussent pour entrer et commencer à voter. Déjà, j'ai assisté à l'élection, au vote d'un des premiers électeurs. C'est ici d'ailleurs que l'élection ou le vote a été lancé officiellement, à titre symbolique.
Alors, Eddy Issango, vous avez certainement discuté avec certains électeurs là-bas. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'ils ont des inquiétudes par rapport à l'organisation du scrutin?
Comme je t'ai dit, c'est de la tension ici. Les gens, certains ont une appréhension par rapport à une certaine fraude. D'abord, parce qu'il y a des problèmes de la carte électeur qui pose. C'est posé ici. Les cartes qui ont été faites cette fois-ci ont pour la plupart perdu leurs écrits. Bon, la CENI a permis à ce que tout celui qui a une carte, même si c'est visible, qu'ils viennent voter. Et ils ont aussi permis à ceux qui ont perdu leur carte de venir, parce qu'il s'est posé un problème des duplicata aussi. Donc tout ça, bon, ça dépend maintenant. Certains pensent que ça peut donner voix à la tricherie. Certains, bon, pour certains, ça ne leur dit rien. L'essentiel est qu'ils votent.
Alors, Eddy Issango, qu'est-ce qui est prévu? Vous avez dit que le bureau de vote a ouvert avec un petit retard. Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui est prévu et à quelle heure les bureaux de vote vont fermer? Est-ce que les dépouillements vont commencer aujourd'hui? On peut attendre les résultats à peu près quand, Eddy?
C'est à 17h normalement que les bureaux de vote sont censés fermer, mais comme ils commencent en retard de 2h, je crois qu'ils seront obligés de prolonger aussi de 2h. Il est 8h03 ici pendant que je parle. Bon, tout ça aussi, les électeurs peut-être ne savent pas parce qu'ils étaient en rang quand moi je suis arrivé, une très longue file. Bon, ils s'énervent, peut-être qu'ils disent qu'à 17h, parce qu'ils sont ignorants, qu'on va fermer. Je les vois ici poser des questions aux agents de la CENI et même aux observateurs. J'ai vu ici des observateurs du Centre Carter, de la SADC et d'autres. Et par ailleurs, j'ai vu aussi l'attention du côté des observateurs, parce que quand ils voulaient entrer, on les mettait à côté en leur disant d'attendre. Maintenant, on leur a permis d'entrer. Bon, les témoins sont des partis politiques surtout. C'est là qu'il y a l'attention, c'est là qu'ils poussent.
Merci beaucoup, Eddie Sangou, envoyé spécial de VOA Afrique là-bas à Kinshasa. Alors, à Lubumbashi aussi, les bureaux de vote ont déjà ouvert. On va écouter quelques électeurs hein, que notre correspondant Narval Mabila a pu interroger, quelques électeurs qui participent donc aux différentes élections générales qui se déroulent aujourd'hui même. On écoute les électeurs, quelques électeurs interrogés par Narval Mabila.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici à Kamalondo, centre Djassiri Kitumaini.
Oui.
Vous êtes arrivé à quelle heure? Est-ce que vous avez voté et comment ça se passe?
Oui, par rapport à l'organisation, la situation se passe relativement calme. Nous sommes arrivés le matin, nous nous sommes présentés. Déjà, on a trouvé que...
Le matin à quelle heure?
Vers 7h. On a trouvé déjà que tout était en place. Nous étions là, on a cherché le nom, on l'a retrouvé. En tout cas, jusque-là, l'hiver. Il faut que ça passe dans une tranquillité qu'on ne peut pas reprocher en tout cas.
Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude?
Non, il n'y a pas d'inquiétude jusque-là. En tout cas, nous sommes calmes.
Ok, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Qui est assuré par la police. Mais le problème, c'est que les gens se plaignent des difficultés de retrouver leur nom sur la liste d'électeurs. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas, il y a des gens qui se retrouvent des listes d'éradiés, il y a des gens qui se retrouvent sur les listes qui n'ont rien à voir avec l'ordre alphabétique. Et ça, c'est les premières difficultés qu'on rencontre ici. On constate aussi que pour voter, les gens prennent un peu beaucoup de temps. Ça, c'est aussi les aspects techniques, parce qu'il y a des bureaux où les machines qu'on commence déjà à s'épuiser en termes de charges. Mais on ajoute aussi pour les témoins, les observateurs, il n'y a pas assez de témoins, il n'y a pas assez d'observateurs. On met ça sur le compte, le fait que c'est hier seulement, après-midi, que la CENI a dû délivrer les macarons pour les témoins et les observateurs. Mais du point de vue déroulement, on peut noter quand même que les bureaux dans la plupart des cas ont été ouverts déjà à 6 heures. Mais les votes ont tardé un peu parce qu'il fallait que le temps les gens s'installent, c'est-à-dire les membres du bureau puissent s'installer par-ci, par-là. Donc de façon générale, je crois que tout est relativement calme et tout se passe plus ou moins bien. On attend que la CENI puisse vraiment réfléchir sur la question des listes, parce que ça, c'est un grand blocage pour les électeurs jusqu'à présent.
Après Kinshasa et Lubumbashi, rendons-nous maintenant à Bukavu pour retrouver notre correspondant Ernest Mouero. Bonjour Ernest.
Bonjour à tous les gens.
Alors, qu'est-ce qui se passe à Bukavu? Comment se déroule le vote? Est-ce que les bureaux de vote ont effectivement ouvert? Où vous vous trouvez?
Madame, exactement, je me trouve au niveau du centre hospitalier, donc l'hôpital général de Bukavu, où il y a un centre de vote avec 12 bureaux de vote. Il faut dire que très tôt le matin, quand on est arrivé, vers 6 heures comme c'était promis, les centres n'étaient pas encore ouverts. Mais il faut dire que déjà vers 8 heures, effectivement, après beaucoup d'impatience de la part de la population électrice qui s'est véritablement mobilisée sur la route, déjà on rencontrait beaucoup en train de se rendre vers différents centres. Il faut dire qu'ici au niveau du centre de l'hôpital général, il y en a plein. Et déjà le matin, il n'y avait pas du tout des bureaux ouverts. On a senti un peu de l'impatience. On a senti un peu de la gêne de la part de la population, mais bon, déjà vers 8 heures, les centres ont ouvert. Jusqu'à là, il y a les observateurs qui ont été admis d'entrer dans les bureaux de vote. Mais il faut noter que parmi les 12 bureaux prévus sur ces sites, il y en a 6 qui ont été délocalisés. Et donc, pour raison d'indisponibilité des cadres pour pouvoir le faire, donc il y a 6 centres qui ont été délocalisés vers l'école primaire Catalico. Déjà une situation qui amène les électeurs à pouvoir, encore une fois, à s'aménager pour arriver sur ces nouveaux sites. Et c'est un désagrément assez important. En ce moment, les témoins ne sont pas encore admis dans les bureaux de vote et on sent qu'ils ne sont pas contents du tout. Ils se manifestent un tout petit peu. Mais pour les observateurs, ils sont déjà admis dans les différents bureaux et à 8 heures, comme je l'ai dit, les opérations de vote ont commencé. Donc un retard pratiquement des 10 heures, on s'est dit que certainement que ça va avoir des incidences par rapport à l'heure limite prévu pour la fin des opérations.
De vote.
Mais il faut dire que c'est pas seulement. Oui.
Merci beaucoup Ernest Mouero à vous de nous avoir donné des nouvelles là-bas de ce côté. Alors les attentes sont nombreuses hein, et les défis immenses pour les électeurs qui se déplacent pour les bureaux de vote. Écoutons Israël Boukoundé, il est enseignant, il exprime ses attentes. Hein. Ses propos ont été recueillis par nos envoyés spéciaux.
Les trois choses principales que j'attends du futur président de la République démocratique du Congo, c'est d'abord la stabilité du taux de change, stabiliser la monnaie nationale. La deuxième chose, c'est investir dans l'éducation en payant très bien les enseignants, parce que les enseignants ont un salaire de misère. Il doit créer l'emploi, il doit aussi promouvoir l'entrepreneuriat. Troisièmement, je préfère que le futur président de la République démocratique du Congo travaille sur la paix à l'est du pays. La population de ces côtés de la République démocratique du Congo souffre énormément. Sans vous mentir, je ne veux pas que le président de la République construise ma maison. Je ne veux pas que le président de la République dote ma fiancée. Ce n'est pas son travail. Mais en tant que président de la République, il doit garantir les meilleures conditions de vie à la population congolaise. À ce moment-là, la République démocratique du Congo sera un pays prospère, un pays émergent, un pays qui tend vers le développement.
Merci beaucoup à nos différents envoyés spéciaux et correspondants mobilisés toute cette journée électorale que vous pouvez suivre en direct sur VOA Afrique, sur notre site web voaafrique.com et sur l'ensemble de nos partenaires radio et télé partout en Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité au Niger, plus de 4 mois après le coup d'État mené par le général Abdourahmane Tiani, l'Allemagne relance les discussions avec ce pays qui accueille plus de 100 soldats de la Bundeswehr, l'armée allemande. Le ministre de la Défense allemande était mardi à Niamey et s'est entretenu avec les responsables du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'organe dirigeant du pays. Le point avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Boris Pistorius a dit avoir eu une conversation très ouverte avec son homologue nigérien, le général Salifou Modi. Nous souhaitons reprendre les projets de coopération. Même après la prise du pouvoir, nous n'avons pas tout arrêté, a notamment déclaré à la presse le ministre allemand. Comme plusieurs autres pays, des soldats allemands sont présents au Niger. Ils sont un peu plus de 100 stationnés à la base aérienne de Niamey. Depuis le coup d'État, la question de la présence militaire étrangère sur le sol nigérien est un sujet régulièrement évoqué par la population et les nouvelles autorités. Le ministre nigérien de la Défense est revenu là-dessus lors de son entretien avec son hôte du jour.
On ne se lève pas du jour au lendemain pour venir s'asseoir dans un pays avec des armes, avec des chars, mais il y a des conditions. Et dans ce cadre, nous allons voir avec les Allemands les nouvelles conditions. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le stationnement des troupes étrangères au Niger vont être désormais soumises à l'appréciation des Nigériens.
La dernière visite du ministre allemand au Niger remonte au mois d'avril dernier où il soulignait la collaboration étroite entre son pays et le Niger qu'il a qualifié de point d'ancrage de stabilité régionale. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
4 fonctionnaires français, des agents de renseignement selon une source burkinabé, des techniciens de maintenance informatique selon une source diplomatique française ont été arrêtés à Ouagadougou début décembre, a-t-on appris hier soir. Dans un contexte de relations très tendues entre le Burkina et la France, nous sommes en train de vérifier le véritable travail de terrain de 4 ressortissants français présentés comme des agents de la DGSE. Ils sont actuellement devant les enquêteurs, a indiqué la source burkinabé. De son côté, une source diplomatique française a déclaré que ces 4 techniciens étaient au Burkina Faso pour réaliser une opération de maintenance informatique au profit de l'ambassade de France. Le 14 décembre, ils ont été mis en examen et transférés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, a précisé la source diplomatique française. Ici aux États-Unis, la Cour suprême du Colorado a déclaré mardi Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole. Par une majorité de 4 juges sur 7, la Cour suprême du Colorado a confirmé la décision de première instance, concluant que Donald Trump s'était livré à une rébellion le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du Capitole. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême des États-Unis, devant laquelle l'ancien président républicain va se pourvoir, selon un de ses porte-parole. Et puis, le chef du Hamas doit se rendre en Égypte ce mercredi pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza, après qu'Israël a indiqué être prêt à accepter une nouvelle pause en échange d'otages. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. En République démocratique du Congo, les violences électorales menacent le déroulement du scrutin de ce 20 décembre, selon Human Rights Watch. L'ONG dit avoir documenté des affrontements à travers le pays entre des partisans de partis politiques rivaux qui ont conduit à des agressions, des violences et au moins un décès. Antoine Roger Bolamba, adjoint Thomas Fessy, chercheur principal sur la RDC à Human Rights Watch.
Oui, en effet, la campagne électorale qui vient de prendre fin a été tendue au Congo. Elle a été émaillée de violences. Nous avons documenté des affrontements entre militants de partis politiques rivaux, des cas de violences sexuelles même et de morts. Il y a eu des actes de vandalisme contre des bureaux de partis et des actes d'intolérance politique. Et malheureusement, cette violence a continué d'ailleurs en fin de semaine dernière depuis la publication de notre rapport. Il y a eu encore des violences dans des rassemblements, des blessés. Il y a même eu un mort dans le sud-est du pays à Fongouroumé. Il y a eu un candidat à la députation UDPS qui a été tué dans le sud Kivu, à Uvira. Un autre candidat, lui aussi affilié au parti présidentiel, qui a été tué dans une embuscade à Beni. Donc c'est une fin de campagne extrêmement violente et tendue. Ces violences pourraient menacer le déroulement du scrutin si rien n'est fait pour les empêcher et pour que cette situation déjà dangereuse ne dégénère.
Selon vous, qu'est-ce qui serait principalement la cause ou bien à la base de ce genre de violences, selon vous ?
C'est l'intolérance politique qui a plané sur cette campagne électorale et les tensions politiques entre partis politiques rivaux, notamment des tensions qui se basent sur, pour l'opposition par exemple, un manque de confiance dans le processus électoral, le fait qu'il n'y a pas eu une transparence totale sur les diverses étapes des préparatifs électoraux. De l'autre côté, entre rivaux, voilà cette intolérance politique qui fait qu'on n'a pas toujours accepté les rassemblements se tiennent ici et là.
La campagne électorale s'est arrêtée hier et éventuellement, maintenant, nous sommes à quelques heures, si vous voulez, à un jour pratiquement du scrutin. Comment éviter ce type de conflit, ce type d'intolérance politique, ce type de violence à la veille des élections, même après les élections?
Les autorités congolaises devraient évidemment assurer la sécurité et la sûreté de tous les observateurs électoraux mobilisés dans le pays, qui ont un travail colossal à effectuer.
Thomas Fessy, chercheur principal sur la RDC à Human Rights Watch.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Les élections en RDC sont suivies de près par de nombreux Congolais de la diaspora. C'est le cas de Bobilia et sa famille qui vivent désormais ici aux États-Unis dans l'État du Texas. Ils ont passé de nombreuses années en Tanzanie avant d'obtenir la réinstallation aux États-Unis en 2016. À Houston, Bobilia exprime ses attentes au micro de Blanche Sanou qui est allée à sa rencontre.
À la veille des élections en République démocratique du Congo, les électeurs ont exprimé l'espoir que le scrutin serait bien organisé et se déroulerait sans violence. Dans sa ferme depuis Houston, Bobilia a des attentes pour le vote dans son pays d'origine.
Je vis aux États-Unis depuis 11 ans avec ma famille et mes enfants. Mes attentes pour notre pays, le Congo, c'est d'avoir la paix. Les élections arrivent et le peuple congolais pourra choisir le nouveau président. Je demande en premier à celui qui sera élu d'apporter la paix à l'ensemble du Congo. Parce que la paix dans le pays et dans le monde est importante. Même si vous n'avez pas de nourriture et que vous êtes dans un endroit paisible, vous vous sentirez bien. Ensuite, je souhaite le développement et la scolarisation des enfants. Et les agriculteurs devraient être propriétaires au Congo, être reconnus. Et les aliments qu'ils cultivent au Congo doivent être disponibles sur le marché. Je demande l'éducation des enfants, de tous les enfants, pas seulement de moi, mais des enfants du monde entier. Parce que l'école est la chose la plus importante dans la vie d'une personne. Si vous allez à l'école, vous ne serez pas des mendiants, vous n'allez pas voler. Mais si vous avez de la chance d'aller à l'école, votre vie sera faite de travail grâce aux leçons que vous avez étudiées. C'est pourquoi je prie pour l'éducation des enfants. Que tous les enfants aillent à l'école, que Dieu leur donne une éducation.
Originaire de la province du Sud, Kivu, Bobilia se désole du fait que les électeurs des zones occupées par les combattants du M23 ne pourront pas voter mercredi.
Comme le vote n'a pas encore eu lieu et comme je ne connais pas celui qui va être élu, je demande à celui qui sera choisi de diriger le pays avec la volonté de Dieu. Qu'il ne compte pas seulement sur son intelligence pour diriger le pays, car il ne s'en sortira pas s'il ne suit pas la volonté de Dieu.
Plus d'un million de personnes ont été déplacées à cause des affrontements armés, selon les chiffres publiés fin novembre par l'Organisation internationale pour les migrations.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, au nord de la capitale Washington, l'Université du Maryland accueille plus de 5000 étudiants étrangers, la plupart poursuivant des études de maîtrise ou de doctorat. Laurel Bowman de la VOA examine les raisons pour lesquelles ils choisissent d'étudier aux États-Unis et ce dont ils ont besoin pour réussir. Le récit est de Lionel Gaïma.
Kemi Boussari est journaliste au Nigeria. Il a choisi de faire son doctorat en journalisme aux États-Unis en raison de la renommée mondiale de ses professeurs.
J'ai regardé la faculté et j'ai vu des professeurs qui ont été journalistes à un moment de leur vie et qui enseignent maintenant à l'université. Ce sont également des professeurs dont j'ai lu certains travaux sans même savoir que je finirai à l'Université du Maryland.
L'Indien Himanshu Survey, étudiant en maîtrise, estime que les cours d'ingénieurat des télécommunications aux États-Unis sont plus pratiques que ceux qu'ils recevaient ailleurs.
Les États-Unis offrent une bonne exposition en matière de formation. L'accent est mis davantage sur la formation pratique que sur la théorie, de sorte qu'il est beaucoup plus facile de faire le lien avec ce que l'on apprend ici.
Jody Heckman-Bowles, directrice associée au service des étudiants étrangers à l'Université du Maryland, explique que de nombreux étudiants étrangers décident aussi de poursuivre leurs études supérieures aux États-Unis en raison des possibilités de travail en alternance appelée « graduate assistantship ».
Il s'agit d'un engagement de 20 heures par semaine auprès du département dans lequel vous êtes admis, où vous pouvez travailler en tant qu'assistant d'enseignement, assistant de recherche ou simplement assistant général. Et en échange de ce travail, vous bénéficiez d'une remise de frais de scolarité, ce qui signifie que vous ne payez pas de frais de scolarité.
Elle rappelle aux étudiants étrangers qui souhaitent étudier aux États-Unis qu'ils ont beaucoup de choses à faire, comme organiser le logement et payer le loyer, trouver des colocataires, obtenir une assurance maladie, obtenir des visas, ouvrir des comptes bancaires et demander un numéro de sécurité sociale s'ils veulent travailler.
En tant qu'étudiant étranger, obtenir un logement a été très difficile. Ensuite, il a fallu choisir la bonne banque, les bons opérateurs de téléphonie mobile.
La clé est d'essayer de commencer tôt, avant que les cours ne commencent. J'avais déjà un compte en banque, j'avais déjà fait des progrès en ce qui concerne mon assurance maladie. J'avais déjà fait des démarches pour obtenir ma carte de sécurité sociale.
Madame Ekman-Bose rappelle aux futurs étudiants étrangers que les universités offrent de nombreuses ressources pour les aider à s'installer aux États-Unis. Et après la pandémie de COVID-19, son université a mis en ligne une grande partie de ses activités de sensibilisation auprès des étudiants étrangers.
Nous avons été en mesure d'être en contact avec les étudiants avant leur arrivée. Ainsi, lorsqu'ils sont dans leur pays d'origine et qu'ils attendent de venir aux États-Unis, nous leur fournissons des informations sur le logement, l'assurance maladie et l'obtention d'un permis de conduire.
Aussi, se préparer longtemps à l'avance peut aider l'étudiant étranger à trouver son chemin aux États-Unis et peut-être même réaliser le rêve américain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Aux États-Unis comme ailleurs, c'est déjà l'ambiance des fêtes de fin d'année et comme de tradition chaque année, des foules de touristes et de locaux sont attirés par les grandes vitrines des magasins de New York. Aaron Ranen nous entraîne dans une visite guidée à Manhattan. Le récit est de Michel Joseph.
C'est la période des fêtes à New York. Les rues sont bondées de visiteurs et d'habitants désireux de voir les chefs-d'œuvre illuminés, les vitrines des grands magasins et des détaillants emblématiques de la ville. Diane Lowery est venue de Denver, dans le Colorado.
Ils sont fabuleux, ils sont au top. Ils sont fabuleux, vous ne verrez jamais rien de tel. Je viens chaque année pour les voir et chaque année, ils ne me déçoivent pas.
Christy Rushing est venue du Kentucky.
Parce qu'ils sont brillants, spectaculaires. Je veux dire, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. La plupart du temps, je le fais sur Internet. Alors, être ici et voir tout cela est tout simplement merveilleux. Et j'apprécie aussi la partie shopping.
Ces étalages éblouissants ne se contentent pas de divertir et d'attirer les clients. Ils génèrent aussi beaucoup de revenus aux grands magasins à l'ère du numérique. Anne Kang est professeure à l'Institut de technologie de la mode.
They're a vital tool for retailers. And, you know,
ils sont un outil essentiel pour les détaillants. Ils servent de pont entre le physique et le numérique de la vente au détail. Elles offrent de grandes possibilités de raconter des histoires et d'engager les clients d'une manière unique.
Ces vitrines, pour la période des fêtes, ornent les rues de New York depuis plus d'un siècle. Anne Kang, professeure à l'Institut de technologie de la mode.
Les fenêtres de vacances et les vitrines en général remontent à la fin des années 1800 ou au début des années 1900 et étaient beaucoup plus raffinées. Les fenêtres de Noël ont toujours été un cadeau pour la ville.
Cette année, l'offre comprend la vitrine de diamants de Tiffany, les scènes de New York et de Paris de Saks sur la 5e avenue, réalisées en collaboration avec Dior, les effets de lumière, de chrome et de miroir de Bergdorf Goodman et le partenariat sur le thème de Wonka de Bloomingdale qui s'inspire du nouveau film de Warner Brothers. John Klimkowski est vice-président du merchandising visual et des vitrines du grand magasin Bloomingdale.
Lorsque nous avons conçu les vitrines, nous avons vraiment cherché à faire ressortir l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Les petites touches et les détails de paillettes et les bonbons qui composent une veste commencent vraiment à surprendre et à ravir l'observateur.
Selon M. Klimkowski, ces vitrines incitent aussi les acheteurs en ligne à se rendre physiquement dans les magasins.
Lorsque vous êtes totalement immergé dans l'expérience dans la rue, lorsque vous regardez les vitrines et que vous êtes ravi, vous ne pouvez pas égaler cela en restant assis sur votre canapé à la maison.
L'animation des rues et l'engouement des passants devant ces vitrines spectaculaires sont une autre preuve que les traditions ont la peau dure et qu'elles ont encore un bel avenir à New York.
C'est déjà la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa. Ainsi va le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.